qui, en croyant au symbole de Nicée, est devenu celui qui a été dépouillé à notre époque. Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole, et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Aujourd'hui, nous avons examiné ensemble les paroles du chapitre 10 de Luc, du verset 25 au verset 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, « Pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » demande-t-il. Cet expert de la loi est quelqu'un qui se considère comme un grand enseignant de la loi. C'est pourquoi il a demandé à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il disait, « En effet, Jésus, donne-moi simplement la parole. Je garderai toutes les lois et tous les commandements, sans exception. » Alors Jésus lui dit de nouveau, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ?» Cette question demandait, « De quelle perspective comprenez-vous et croyez-vous les paroles de la loi de Dieu ?» Jésus savait bien que l'homme ne peut pas observer la loi. La loi se compose de commandements de faire et de ne pas faire, et elle consiste en un total de 613 articles. Mais est-il vraiment possible pour une personne d'observer parfaitement toutes ces lois et tous ces commandements ? Si une personne pouvait observer parfaitement la loi de Dieu, elle aurait déjà dépassé les limites d'un être créé et serait devenue un être comme Dieu. Par conséquent, le but pour lequel Dieu a donné la loi n'est pas que nous devenions justes en l'observant scrupuleusement. Plutôt, la loi a été donnée afin qu'une personne puisse clairement réaliser son propre péché. En d'autres termes, la loi est la norme de Dieu, donnée pour révéler et faire connaître le péché humain. Le docteur de la loi qui vint à Jésus répondit à sa question avec beaucoup d'assurance. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors Jésus dit ceci au docteur de la loi, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu vivras. Cependant, le docteur de la loi, voulant montrer que sa réponse était correcte, demanda de nouveau, et qui est mon prochain ? Jésus voulait enseigner au docteur de la loi que pour recevoir le vrai salut, il faut recevoir la miséricorde de Dieu. Lorsque le docteur de la loi demanda « Qui est mon prochain ?», Jésus lui répondit en lui racontant une parabole. Un certain homme descendait sur la route de Jérusalem à Jéricho lorsqu'il rencontra des voleurs. Il fut dépouillé de tous ses vêtements, sévèrement battu, et fut laissé sur le bord de la route, presque mort. Le sang coulait sur tout son corps, et il gisait là, incapable même de gémir correctement, il fut laissé dans un état de vulnérabilité totale, sans même de vêtements pour couvrir son corps. Juste à ce moment-là, un prêtre se trouvait à passer par cette route et vit l'homme qui avait été attaqué par des voleurs. Cependant, ce prêtre pensa en lui-même, « Aujourd'hui n'est pas un jour de chance. rencontrer une personne comme celle-ci et s'inquiéta que le malheur ne s'abatte sur lui. Finalement, il évita intentionnellement l'homme qui avait été attaqué par les voleurs et quitta rapidement les lieux. Peu de temps après, un Lévite aussi, en passant par la même route, vit l'homme qui gisait là, mais lui, tout comme le prêtre, fit semblant de ne pas voir, se détourna et passa son chemin, l'évitant. Cependant, un Samaritain qui voyageait sur cette route était différent. Quand il vit l'homme qui avait été battu par des voleurs et qui gisait là, un sentiment de compassion surgit du plus profond de son cœur. Il s'approcha de lui, versa de l'huile et du vin sur ses plaies et les soigna, banda ses blessures, puis mit l'homme sur sa propre monture, l'emmena dans une auberge, et prit soin de lui avec diligence. Le lendemain, il donna de l'argent à l'aubergiste et lui fit une demande. « S'il vous plaît, prenez bien soin de cet homme. S'il y a des dépenses supplémentaires, je vous les rembourserai à mon retour de voyage. » Après avoir dit cela, il reprit sa route. Après avoir terminé cette parabole, Jésus demanda au docteur de la loi. « Lequel de ces trois, à ton avis, est devenu le prochain de l'homme qui est tombé parmi les voleurs ?» Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de miséricorde. » Jésus dit alors à ce docteur de la loi en guise de conclusion, « Toi, va et fais de même. » En cette époque, celui qui a sauvé l'homme tombé aux mains des brigands est Jésus-Christ. Finalement, c'est le Samaritain qui a sauvé l'homme qui avait été dépouillé. Dans cette parabole que Jésus a racontée, le Samaritain désigne Jésus-Christ. C'est parce qu'il est devenu notre vrai Sauveur, qui a pris sur lui les péchés du monde en une seule fois en étant baptisé par Jean, et qui a lavé ses péchés. La loi a pour fonction de montrer le péché à l'homme. Cependant, les chefs religieux de cette époque ne faisaient que révéler leurs propres péchés et ceux des autres à travers la loi, enseignant seulement des doctrines religieuses qui ne pouvaient donner le vrai salut aux pécheurs. D'un autre côté, Jésus est venu pour sauver les pécheurs des péchés de ce monde, et par le baptême qu'il a reçu de Jean, les péchés du monde lui ont été transférés en une seule fois. Par la suite, en versant son sang sur la croix, il a réglé le prix de ses péchés en une seule fois, et est devenu le sauveur de ceux qui croient. Le point auquel nous devons prêter attention ici est de savoir qui désigne l'homme dépouillé qui descendait de Jérusalem à Jéricho. L'homme dépouillé dans cette parabole désigne les pécheurs comme nous aujourd'hui, qui meurent spirituellement à cause du péché, n'ayant pas reçu la purification complète de leur péché. Les gens de ce monde aujourd'hui, qui vivent encore avec le péché dans leur cœur, confessent croire en Jésus crucifié comme leur sauveur, mais en réalité, ils essaient de se sauver eux-mêmes en observant la loi, accablés par le lourd fardeau du péché qui demeure dans leur cœur. Dans ce processus, leurs cœurs sont blessés et déchirés par la culpabilité et les fardeaux religieux, et ils vivent dans la souffrance, abandonnés comme l'homme dépouillé. Aujourd'hui encore, il y a d'innombrables personnes qui meurent spirituellement, non libérées du péché, tout en s'attachant uniquement à la doctrine de la croix. Bien qu'ils croient doctrinalement à la croix de Jésus, parce que le péché demeure en fait toujours dans leur cœur, ils se tiennent sur le chemin qui mène à la destruction. Beaucoup de gens disent croire en la croix, mais loin que leur péché soit enlevé, ils vivent dans une confusion et un désespoir plus profond. Quand je vois ceux qui sont blessés et brisés en luttant pour résoudre leurs propres péchés sous des idées théologiques erronées et de mauvais dirigeants, une profonde compassion monte du plus profond de mon cœur. Quand nous examinons leur vie, il y a un schéma commun. C'est qu'ils croient au Seigneur qui a versé son sang sur la croix comme leur sauveur. Cependant, le fait est qu'ils étaient pécheurs avant de croire, et même après avoir cru, plus de péchés se sont accumulés et demeurent dans leur cœur, de sorte qu'ils continuent à vivre comme des pécheurs. Finalement, bien qu'ils confessent que Jésus est le Sauveur, la réalité est qu'ils se débattent dans la confusion et le désespoir parce que leurs propres péchés n'ont pas été résolus. Dans le passé, nous étions aussi comme cela. Bien que nous croyions en Jésus comme notre Sauveur, nos âmes avaient encore soif et se mouraient. Chaque fois que nous commettions un péché, nous essayions de maintenir notre foi en nous accrochant uniquement à la croix, et en ayant recours à des prières de repentance et à des confessions, mais cela s'est finalement terminé en vain. Le péché qui restait dans le cœur n'était pas purifié par les prières de repentance, et plus nous péchions, plus nous entrions dans un état où nous devions vivre comme des pécheurs encore plus grands. Par conséquent, nous ne pouvions nous empêcher de ressentir du désespoir en faisant face à la réalité de tomber dans plus de péchés à mesure que nous nous efforcions de ne pas pécher. Finalement, nous n'avons d'autre choix que d'admettre, maintenant, je ne peux pas me ressaisir avec les prières de repentance que j'offre ou avec la foi qui croit aux doctrines chrétiennes. Du plus profond de l'âme, ce cri jaillit, « Que dois-je faire maintenant ? Que dois-je croire ? Je ne fais que regretter la foi à laquelle je me suis accroché jusqu'à présent. Seigneur, s'il te plaît, tiens-moi fermement. S'il te plaît, sauve-moi de ce péché. » Nous devons examiner pourquoi nous devons vivre de cette manière, en commettant des péchés. Pour réfléchir à la raison pour laquelle nous n'avons d'autre choix que de vivre en pécheur, nous devons d'abord examiner les paroles de Marc, chapitre 7, versets 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ces paroles du Seigneur montrent clairement que la raison pour laquelle nous commettons le péché n'est pas simplement à cause de notre environnement ou de nos circonstances, mais parce que le péché a originellement pris racine dans nos cœurs. Nous sommes des êtres qui, tout comme nous héritons notre chair de nos parents, héritons de la nature pécheresse de nos parents avant même la naissance, et naissons au milieu du péché. Toutes les personnes nées dans ce monde en tant que descendants d'Adam sont des pécheurs qui naissent en portant en eux la méchanceté dès le tout début. Dans nos cœurs, ces 12 méchancetés ont pris racine, et ce cœur est déjà souillé par le péché dès l'instant de la naissance. Par conséquent, nous sommes de ceux qui naissent dans ce monde en portant en eux de mauvaises pensées, des cœurs lubriques, le désir de voler, le cœur d'adultère, l'avidité, le mensonge, l'impudicité, la jalousie et la calomnie, l'orgueil et la folie. Finalement, cela signifie que nous étions des êtres qui, possédant la semence du péché, n'avions d'autre choix que de vivre en étant entraînés par le péché. Par conséquent, le fait que nous en venions à commettre d'innombrables péchés pendant que nous vivons dans ce monde est peut-être une conséquence bien trop naturelle. Tant que le péché est dans nos cœurs, il est impossible par la force humaine de vivre sans commettre de péché. Le Seigneur aussi, connaissant cette réalité qui est la nôtre, nous a appelés pécheurs. Et il a averti que le chemin de nous, qui sommes pécheurs, est finalement une route qui mène à la destruction et à l'enfer. Le Seigneur a clairement parlé du jugement sur le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 6, verset 23. Si tel est le cas, nous devons poser cette question, comment exactement le Seigneur a-t-il éliminé nos péchés ? Aujourd'hui, de nombreuses personnes, tout en croyant seulement en la croix de Jésus, veulent l'enlèvement de leurs péchés. Cependant, leur réalité montre qu'il est impossible d'échapper aux péchés. Nous pouvons facilement voir qu'en s'attachant à la croix seule, ils ne peuvent pas résoudre le problème du péché, et continuent ainsi à vivre en pécheur. Jésus parlait de la vérité qu'un pécheur doit avoir ses péchés enlevés pour naître de nouveau d'un pécheur en une personne juste. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Jean, chapitre 3, versets 3 à 7. Jésus a dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean, chapitre 3, verset 3. Cela signifie que si nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, nous devons naître de nouveau pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Alors, où est le chemin pour que nous naissions de nouveau ? Dans Jean, chapitre 3, verset 5, Jésus a dit, Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Est-ce que cela signifie, alors, que pour entrer dans le royaume de Dieu, on doit naître de nouveau d'eau et d'esprit. Jésus était celui qui voulait nous faire connaître le message de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Concernant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si même un seul péché demeure dans le cœur d'une personne, elle ne peut entrer dans le saint royaume de Dieu. Par conséquent, un véritable évangile qui élimine complètement tous les péchés de l'humanité est absolument nécessaire. Cependant, une grande partie du christianisme d'aujourd'hui enseigne que les péchés sont pardonnés si l'on croit seulement au sang de la croix. Mais la Bible témoigne clairement de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui déclare qu'en étant baptisé par Jean dans le Jourdain, Jésus a pris sur lui les péchés du monde en une seule fois et les a lavés, et qu'en versant son sang sur la croix, il a entièrement porté la peine pour ses péchés. Jésus a commencé son ministère consistant à porter les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, et sur la croix, il a reçu le jugement pour ses péchés dans son propre corps. Ces deux ministères n'étaient pas des actes séparés, mais constituaient un seul évangile complet qui purifie les péchés de l'humanité et la délivre du jugement. La raison pour laquelle Jésus a été baptisé est encore plus claire. Jean, chapitre 1, verset 29 témoigne que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le fait que Jésus ôte le péché du monde signifie que par le baptême qu'il a reçu de Jean, qui était comme l'imposition des mains, les péchés lui ont été transférés. L'événement où Jésus a porté les péchés du monde fut précisément ce baptême. Tout comme à l'époque de l'Ancien Testament, un pécheur imposait les mains sur une offrande sacrificielle pour y transférer ses péchés, puis offrait un sacrifice à Dieu avec le sang de cette offrande, le baptême que Jésus a reçu de Jean fut l'événement où les péchés du monde furent transférés au corps de Jésus en une seule fois. Ce baptême même est le commencement de la rémission des péchés et le cœur de la vérité. De cette manière, parce que Jésus a porté tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, il est devenu le Sauveur qui avait la qualification parfaite pour recevoir la peine de ses péchés sur la croix à notre place. S'il était allé à la croix sans le baptême, il n'aurait pas pu recevoir le jugement pour le péché, car il est celui qui est fondamentalement sans péché. Par conséquent, le baptême de Jésus était un événement essentiel et juste qui a rendu possible le ministère de la croix. En fin de compte, l'évangile de l'eau et de l'esprit est que Jésus, en étant baptisé, a lavé les péchés du monde, et en étant cloué sur la croix et en versant son précieux sang, il a reçu le jugement pour nos péchés à notre place. Nos péchés avaient déjà été transférés au corps de Jésus, qui a été baptisé par Jean, et par le sang de la croix, le jugement pour nos péchés a été accompli. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. L'eau du baptême de Jésus par Jean signifie le transfert des péchés, et l'effusion de sang signifie le jugement du péché. Jésus est celui qui est devenu notre Sauveur qui a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, et quiconque croit ce fait peut devenir quelqu'un qui est né de nouveau devant Dieu. Cependant, il y a une raison historique pour laquelle cet évangile a disparu d'une grande partie du christianisme aujourd'hui. Après le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, le ministère du baptême que Jésus a reçu de Jean a été progressivement enseveli au sein de l'évangile de la croix, et finalement, une structure de foi fragmentée selon laquelle il suffit de croire en la croix a pris racine. En conséquence, le péché est resté dans le cœur des gens, et ceux qui n'avaient pas résolu leur péché sont tombés dans un cercle vicieux de recherche de la purification des péchés par la repentance et la confession quotidienne. Cette structure était le résultat d'un évangile déformé qui ne correspond pas au véritable salut dont parle la Bible. D'autre part, pour une personne qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, le péché ne peut plus demeurer dans son cœur. C'est parce que Jésus a pris sur lui tous les péchés en une seule fois par son baptême et les a lavés, et a complètement jugé ses péchés sur la croix. Par conséquent, leurs cœurs sont confirmés par le témoignage du Saint-Esprit, et leurs consciences deviennent pures, leur permettant d'appeler Dieu leur Père. Ils sont libérés de la condamnation de la loi et marchent avec Dieu dans la reconnaissance et la joie. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une simple doctrine. C'est l'histoire réelle du salut qui montre comment Jésus a réellement résolu les péchés du monde lorsqu'il a été baptisé par Jean. L'apôtre Jean a également souligné la complétude de cet évangile, témoignant que l'eau, le sang et l'esprit sont un. Premier épître de Jean, chapitre 5, versets 6 à 8. Par conséquent, L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut qui résout nos péchés en une seule fois et complètement, et amène une véritable nouvelle naissance. Ce n'est que dans cet évangile qu'une personne peut obtenir la vraie liberté et recevoir une nouvelle vie pour entrer dans le royaume de Dieu. Par qui avons-nous été guidés pendant 1700 ans? Pendant les 1700 dernières années, ceux qui ont guidé les chrétiens étaient des individus qui avaient appris une théologie profondément imprégnée de la pensée catholique des sept sacrements. Ils ont toujours prêché en se centrant sur la pensée et les doctrines théologiques. Jusqu'à ce jour, l'Église catholique enseigne à ses membres la doctrine des sept sacrements, et les églises protestantes, elles aussi, ont guidé les saints en suivant les doctrines et les pensées mêmes apprises de ces théologiens. En fin de compte, nous avons tous été élevés sous cette influence pendant 1700 ans. Alors, quelle a été l'influence que nous avons reçue du catholicisme? C'était précisément le système de purification du péché centré sur la confession et la repentance, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle on doit laver ses péchés à plusieurs reprises chaque fois qu'ils sont commis. Ceux qui ont créé le symbole de Nicée et qui suivent sa théologie ont vécu avec orgueil, croyant qu'il héritait de la foi orthodoxe de l'Église primitive. Ils ont enseigné aux membres de leur Église qu'ils devaient être sanctifiés progressivement selon les sept sacrements et les doctrines chrétiennes. Par conséquent, les gens sont venus à vivre en s'accrochant aux prières de repentance et de confession chaque fois qu'ils pêchent, même en croyant en Jésus sur la croix comme leur sauveur. Cependant, les gens se sont maintenant lassés de cette vie religieuse sans fin. 1700 ans se sont déjà écoulés pendant qu'ils essayaient de laver leurs péchés par des prières de repentance et de confession. Pendant ce temps, les chrétiens se sont efforcés de résoudre leurs péchés en apprenant la doctrine catholique des sept sacrements et la doctrine protestante du calvinisme. Ils ont essayé de traiter leurs propres péchés par la confession, les prières de repentance et les prières de jeûne, mais tous ces efforts se sont avérés vains. En fin de compte, ils ont été placés dans un état d'attente de la mort en tant que pécheurs, avec leurs péchés non résolus. Qu'ils soient catholiques ou protestants, ils ont vécu avec diligence une vie de foi au sein de la religion, mais le péché demeurant dans leur cœur n'a pas disparu. Par conséquent, ils vivent toujours comme des pécheurs. En quoi leur état actuel est-il différent de celui de l'homme qui a été rencontré par des voleurs en descendant de Jérusalem à Jéricho? Qui sont ceux qui ont créé les croyants qui sont tombés dans un tel état aujourd'hui? Ce sont précisément les théologiens chrétiens et les dirigeants catholiques. Les dirigeants du protestantisme et du catholicisme ont toujours enseigné les croyants sur la base de la théologie du symbole de Nicée et de la doctrine des sept sacrements, les menant jusqu'au XXIe siècle. Ils ont lié les croyants à une doctrine qui leur rend impossible de jamais échapper au péché, peu importe à quel point ils croient en Jésus et le suivent. Le chemin pour que les gens échappent au péché n'était qu'un seul. C'était seulement le chemin de la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, par lequel Jésus, en recevant le baptême de Jean, a fait en sorte que les péchés du monde lui soient transférés et les a lavés. Le résultat de la direction des chefs religieux pendant 1700 ans a été, en fin de compte, de laisser les gens demeurer des pécheurs. Avec des doctrines imprégnées de théologie, il est devenu impossible de voir le véritable salut de la Bible, et maintenant nous sommes arrivés à une époque où les gens ne peuvent pas comprendre le sens de la parole de Dieu même quand ils la voient. Les dirigeants qui ont fourni toute cette direction doivent reconnaître leur péché d'avoir conduit les saints sur le mauvais chemin et se repentir. Jésus, en tant que Seigneur qui est éternellement vivant même maintenant, et celui qui viendra dans le futur pour emmener ceux qui sont nés de nouveau en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le royaume du Seigneur. Nous devons croire que Jésus est le Sauveur qui a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Notre Seigneur Jésus-Christ a porté les péchés du monde en une seule fois par son baptême, et il est celui qui fait naître de nouveau les croyants. Et il est le Seigneur de la seconde venue qui reviendra pour prendre les saints nés de nouveau. Par conséquent, nous devons croire assurément. Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Et nous, tout comme dans les paroles de Jésus à Nicodème, devons naître de nouveau d'eau et d'esprit et entrer dans le royaume de Dieu. Tout ce que vous et moi avons connu jusqu'à présent, c'est le symbole de Nicée et la doctrine des sept sacrements. Le symbole de Nicée et la doctrine des sept sacrements ont finalement servi à lier les gens dans le péché. La raison en était que le symbole de Nicée lui-même ne provenait pas de l'évangile de l'Église primitive, mais visait plutôt une doctrine religieuse syncrétique, créée en mélangeant différentes perspectives religieuses et philosophies. En conséquence, l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, c'est-à-dire la parole de vérité selon laquelle Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, a disparu des chairs de l'Église. La situation n'est pas différente aujourd'hui. Les gens ont vécu leur vie de foi en apprenant les doctrines chrétiennes créées par les théologiens, et ces doctrines ont toujours mis l'accent sur une foi fragmentaire selon laquelle il suffit de croire en la croix. Cependant, peu importe à quel point ils suivaient cette doctrine, le péché dans leur cœur n'était pas résolu, et les gens n'avaient d'autre choix que de continuer à vivre comme des pécheurs. C'est parce que dans les doctrines enseignées par les théologiens, il n'y a pas de chemin pour échapper complètement au péché. Par conséquent, si l'on désire recevoir la purification du péché et devenir juste, il doit avoir l'occasion d'entendre l'évangile de vérité selon lequel Jésus a lavé les péchés du monde en une seule fois en étant baptisé par Jean. Cependant, l'Église n'a même pas fourni un environnement où un tel évangile pouvait être entendu. Même maintenant, quiconque désire ardemment que ses péchés soient résolus doit accepter dans la foi le fait que les péchés du monde ont été transférés à Jésus lorsqu'il a été baptisé par Jean, comme cela est rapporté dans la Bible. C'est le premier pas pour recevoir le salut. Un autre chemin est d'écouter la parole de Dieu telle que témoignée par ceux qui ont déjà cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui sont nés de nouveau. Si quelqu'un peut entendre parler du ministère de Jésus portant les péchés du monde en étant baptisé par Jean, et du ministère de recevoir la peine pour ce péché sur la croix, il peut naître de nouveau. En faisant cela, il peut recevoir la purification du péché, qui était le désir de longue date de son cœur, et en croyant en cette vérité, il peut expérimenter la grâce du salut de devenir plus blanc que la neige. Alternativement, la lecture des livres de sermons du pasteur Paul C. John sera également d'une grande aide. C'est parce que cette vérité y est consignée en détail, ce qui est suffisant pour naître de nouveau. C'est la vérité que nous devons connaître lorsque nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, croire dans notre cœur le fait que Jésus a lavé les péchés du monde en une seule fois en étant baptisé par Jean. Tout comme il n'y a pas d'effet sans cause, la raison pour laquelle nous pouvons recevoir l'effacement de nos péchés est que Jésus a fait transférer sur lui les péchés du monde et les a complètement purifiés lorsqu'il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Par conséquent, ce n'est que lorsque l'on croit cette parole de l'Évangile que les péchés humains sont complètement effacés. Par conséquent, si l'on a l'intention de croire en Jésus comme le Sauveur, il doit croire non pas dans les doctrines chrétiennes qui ont été enseignées en théologie, mais dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dont la Bible témoigne directement. Seul l'Évangile selon lequel Jésus a fait transférer sur lui les péchés du monde en une seule fois et les a lavés lorsqu'il a été baptisé par Jean est le vrai salut. Si quelqu'un apprend et croit dans son cœur cet évangile consigné dans la Bible, il obtiendra l'effacement éternel du péché et la vie éternelle. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean, chapitre 8, verset 32. Ceux qui croient en l'évangile selon lequel Jésus a lavé les péchés du monde en une seule fois en étant baptisé par Jean obtiennent immédiatement la liberté de tout péché. Désormais, nous devons vivre comme ceux qui ont reçu la purification du péché en croyant cet évangile de vérité dans nos cœurs. La Bible entière témoigne que l'événement de Jésus étant baptisé par Jean est le tout début de l'effacement du péché, et la croix est le lieu où le jugement pour ce péché a été finalement accompli. Jésus a porté les péchés du monde par son baptême, a versé son sang et est mort sur la croix à la place de ce péché, et en ressuscitant, il a accompli une rédemption complète. Par conséquent, en croyant en ce ministère de Jésus, nous pouvons l'accepter comme notre Sauveur. Et nous devons toujours graver dans nos cœurs le fait que tous les péchés du monde lui ont été transférés par son baptême par Jean, et que grâce à cela, nous avons pu naître de nouveau. Jésus a dit les mêmes paroles à Nicodème, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean, chapitre 3, verset 5. Cette parole est une déclaration que, parce que Jésus a fait transférer sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean, ceux qui croient en ce fait peuvent naître de nouveau en ayant leurs péchés lavés. En connaissant et en croyant au ministère du baptême de Jésus, nous pouvons jouir de la grâce d'avoir les péchés dans nos cœurs purifiés en une seule fois. Par conséquent, nous devons nous détourner de la vie de foi passée où nous ne pouvions pas résoudre le péché en croyant seulement en la croix. Maintenant, nous devons devenir ceux qui reçoivent l'élimination du péché dans nos cœurs en croyant en l'évangile selon lequel Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, et en la justice du Seigneur qui a reçu le jugement pour le péché sur la croix. Pourquoi Jésus a-t-il loué la foi de Jean-Baptiste? Jésus a témoigné de Jean-Baptiste dans Matthieu, chapitre 11, versets 11 à 14 comme suit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Ces paroles de Jésus étaient une louange puissante pour Jean-Baptiste, incomparable à quiconque à cette époque, et une déclaration dans laquelle il reconnaissait personnellement la foi et le ministère de Jean. Jésus n'a pas jugé Jean-Baptiste selon des normes humaines comme les théologiens du monde, au contraire, il a témoigné que Jean était l'Élie que Dieu avait promis et le serviteur de Dieu qui a préparé son propre ministère. Cependant, aujourd'hui, de nombreux théologiens, et les croyants qui suivent leur doctrine mot pour mot, évaluent Jean-Baptiste comme une figure d'échec. Parce qu'ils suivent une doctrine qui ne met l'accent que sur la croix, ils ignorent le fait que Jésus a été baptisé par Jean pour laver les péchés du monde, et par conséquent, ils dévalorisent le ministère de Jean-Baptiste. Alors, quelles paroles sont justes? Naturellement, les paroles de Jésus sont vraies. Ce ne sont pas les paroles des théologiens, qui proviennent des pensées et des émotions humaines, au contraire, Jésus lui-même a témoigné que Jean-Baptiste était l'Élie qu'il avait dit qu'il enverrait selon les paroles de Malachie, chapitre 4 de l'Ancien Testament. De telles personnes, parce qu'elles ne connaissent pas la parole de l'Évangile de vérité, que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour que les péchés du monde soient lavés, sont trompés par Satan et disent que Jean-Baptiste a été un échec. Ce sont des gens qui, bien que croyant en Jésus comme leur sauveur, vivent comme des pécheurs. Par conséquent, ils sont devenus ceux qui, suivant instinctivement le cœur mauvais en eux, disent que Jean-Baptiste, ainsi que sa vie de foi, ont échoué. Dieu le Père a envoyé Jean-Baptiste dans le monde 6 mois avant Jésus. Jean-Baptiste a été appelé comme le dernier prêtre de l'Ancien Testament, et il était celui à qui a été confié le ministère d'administrer le baptême à Jésus afin que les péchés puissent lui être transférés. Par le baptême qu'il a reçu de Jean, Jésus a pris sur lui les péchés du monde en une seule fois, et il a été jugé pour ses péchés sur la croix en une seule fois. Par conséquent, la toute première étape qui a permis à Jésus de devenir le Sauveur qui lave les péchés a été le baptême qu'il a reçu de Jean. Jésus a personnellement témoigné de ce fait. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Matthieu, chapitre 11, versets 12 à 13. Cette déclaration proclame que toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont achevées avec Jean-Baptiste, et qu'à partir de ce moment, le ministère de Jésus a commencé sérieusement. Le baptême que Jésus a reçu de Jean était l'accomplissement complet des sacrifices de l'Ancien Testament, et sur cette base, l'expiation de la croix a suivi, apportant un salut complet. Concernant Jean-Baptiste, Jésus nous dit que Jean est le prophète même que l'Éternel Dieu a dit qu'il enverrait dans Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6 de l'Ancien Testament. Matthieu, chapitre 11, verset 14. Et cette prophétie s'est accomplie comme il est écrit dans les paroles du Nouveau Testament, Jésus a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean, a été crucifié, a versé son sang, est ressuscité des morts, et est devenu le Sauveur éternel pour ceux qui croient. Néanmoins, de nombreux théologiens et dirigeants d'aujourd'hui définissent Jean-Baptiste comme un échec. La raison en est qu'ils suivent la théologie critique. Sous l'influence d'une théologie qui a nié ou diminué le baptême de Jésus, les gens n'ont pas compris le ministère de Jean-Baptiste, et par conséquent, ils ont fini par devenir ceux qui calomnient la foi et le ministère de Jean-Baptiste. Parce que même de nombreux séminaires théologiques n'enseignent pas la signification du baptême que Jésus a reçu de Jean, le Jean-Baptiste qu'il voit ne reste qu'un « prophète du désert raté ». Cependant, la Bible ne dit pas cela. Jésus, les apôtres, et l'ensemble de l'Ancien et du Nouveau Testament témoignent que Jésus a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Parce que les disciples de Jésus ont cru ce fait, ils ont pu prêcher le véritable évangile par lequel tous les péchés sont lavés en une seule fois par l'eau et l'esprit. D'un autre côté, les théologiens ne croient pas ce fait. L'acte même de qualifier Jean-Baptiste d'échec est la preuve qu'ils nient le ministère du baptême que Jésus a reçu. Leur calomnie n'est qu'une affirmation pour protéger leur propre doctrine et tradition, qui ont supprimé l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, je vous exhorte. Ne croyez pas aux paroles des théologiens, mais à la parole de vérité à laquelle la Bible témoigne. Jésus a été baptisé par Jean, et a pris sur lui les péchés du monde en une seule fois. Sur la croix, il a été jugé pour ses péchés en une seule fois, et a accompli le salut par sa résurrection. Quiconque croit cette vérité voit tous ses péchés lavés en une seule fois, devient juste, et devient un enfant de Dieu né de nouveau. Par conséquent, à partir de maintenant, nous devons devenir des gens qui croient, remercient et louent le ministère que Jésus lui-même a accompli, et non les doctrines des hommes, ou les paroles des théologiens. Lorsque nous croyons dans nos cœurs à la grâce par laquelle Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, et a été jugé pour nos péchés sur la croix, c'est alors seulement que nous obtenons le vrai salut et la vraie liberté, et que nous devenons ceux qui entreront dans le royaume de Dieu. Alors, qui sont ceux qui ont été spirituellement dépouillés aujourd'hui? Aujourd'hui, ceux qui ont été spirituellement dépouillés sont ceux qui croient et suivent les paroles des théologiens. Ces gens, qui acceptent telles quelles les doctrines théologiques énoncées par les théologiens, sont ceux qui disent que Jésus est devenu le sauveur des pécheurs en étant pendu à la croix et en versant son sang. Ils ne croient qu'aux doctrines chrétiennes faites par les théologiens, et essaie de vivre en recevant le lavement des péchés par des prières de repentance quotidiennes, ou par la doctrine des sept sacrements. L'enseignement que les théologiens ont transmis aux gens était seulement de croire en Jésus pendu à la croix comme le Sauveur. Cependant, Jésus a donné la bénédiction du vrai salut à ceux qui croient en la parole de l'Évangile de vérité, selon laquelle il a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Néanmoins, ceux qui étudient la théologie et suivent les doctrines théologiques enseignent que l'on reçoit le lavement des péchés simplement en croyant en la croix de Jésus. Le Seigneur a été baptisé par Jean, et en une seule fois a pris sur lui et a lavé les péchés du monde. Jésus est devenu le Sauveur qui, étant baptisé par Jean, a pris sur lui les péchés du monde, et étant cloué sur la croix, a reçu le jugement pour nos péchés. Cependant, les théologiens d'aujourd'hui disent que l'on est complètement sauvé en croyant en Jésus pendu à la croix comme le Sauveur, et en le suivant. C'est en suivant les paroles des théologiens que les gens sont devenus spirituellement dépouillés. Ce sont des gens qui croient sans savoir à quel point le ministère de Jean-Baptiste, dont le Seigneur a parlé, est un ministère important du transfert des péchés. Par conséquent, même en prétendant croire en Jésus, ils sont devenus ceux qui ont été dépouillés et qui souffrent. Jésus a demandé à un docteur de la loi, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment la lis-tu ? » La loi est le commandement de Dieu. Mais pensez-vous que nous, qui sommes des êtres créés, puissions observer tous les commandements de Dieu énoncés dans la loi ? Si vous le pensez, ce serait la pensée qu'un être créé, une personne, peut devenir comme Dieu. Cependant, le but pour lequel le Seigneur nous a donné la loi est clair. La loi est de révéler et de nous faire prendre conscience de nos péchés, afin que nous puissions finalement retourner au Seigneur. C'est l'invitation du Seigneur, disant « Regardez vos péchés révélés devant la loi, retournez à moi, et recevez l'effacement des péchés en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Un pécheur n'a pas la capacité de garder parfaitement la loi de Dieu. Un pécheur est un être qui ne peut s'empêcher de vivre selon les péchés qui surgissent constamment dans son cœur. Par conséquent, ce n'est que par la foi en la parole de vérité que Jésus a été baptisé par Jean et a pris sur lui et lavé en une seule fois les péchés du monde que les pécheurs peuvent vivre avec le véritable effacement des péchés dans leur cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient qu'en l'évangile de la croix. Cependant, ceux qui sont devenus justes sont ceux qui croient en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus est le Fils de Dieu, le Créateur et le Sauveur des pécheurs. Le ministère qu'il a accompli lorsqu'il est venu sur cette terre pour sauver les pécheurs du péché se trouve dans le ministère du salut où Jésus a été baptisé par Jean, a pris sur lui et a lavé les péchés du monde. Cependant, à partir du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, des théologiens et des philosophes ont uni leurs forces et leur sagesse pour créer une seule doctrine théologique appelée le Credo de Nicée. Ils ont été convoqués par l'empereur romain et sont devenus ceux qui ont été utilisés à ses fins politiques. Dans ce processus, ils ont légèrement modifié l'évangile de l'eau et de l'esprit que les saints de l'Église primitive avaient transmis et l'ont transformé en un évangile qui ne met l'accent que sur la croix. À partir de ce moment, l'évangile de l'eau et de l'esprit a commencé à être déformé, et les âmes des gens sont tombées dans le chaos. Après cela, parmi ceux qui croyaient en Jésus, sont apparus ceux qui étaient spirituellement dépouillés. En croyant en l'évangile de la croix déterminé par les théologiens, les membres de l'Église en sont venus à vivre dans un état où les péchés dans leur cœur n'étaient pas éliminés. Aujourd'hui, indépendamment du christianisme et du catholicisme, les évangiles créés par les théologiens sont pour la plupart des évangiles qui ne parlent que de la croix, et ceux qui y croient vivent comme des pécheurs sans être nés de nouveau. Aujourd'hui, les dirigeants du christianisme et du catholicisme guident les cœurs des membres de l'Église avec les doctrines que les théologiens de leur propre dénomination ont recherchées et créées. Ils enseignent que l'on reçoit le pardon des péchés par la foi uniquement dans le Credo de Nicée, et en Jésus qui a versé son sang sur la croix. En conséquence, de nombreux membres de l'Église ont été conduits sur le chemin de vivre comme des pécheurs toute leur vie, leurs péchés n'étant pas lavés en une seule fois. Ils sont devenus ceux qui enferment les gens dans le cadre appelé la doctrine des sept sacrements du catholicisme, et leur enseignent à essayer de résoudre leurs péchés à l'intérieur de celui-ci. Dans la doctrine catholique des sept sacrements, il est enseigné que lorsqu'on reçoit le sacrement du baptême, le péché originel est effacé, et les péchés actuels sont effacés par le sacrement de la pénitence. Et il est dit que l'on reçoit le Saint-Esprit par le sacrement de la confirmation. Pour recevoir le Saint-Esprit, les gens rendent visite à un évêque, se font appliquer de l'huile sainte sur la tête, reçoivent l'imposition des mains, et se portent volontaires pour recevoir le Saint-Esprit. À une certaine époque, une telle doctrine du Saint-Esprit a grandement prospéré tant dans le catholicisme que dans le protestantisme. Cependant, avec le temps, ces doctrines ont progressivement perdu leur pouvoir. Cela fait déjà 1700 ans qu'ils ont créé le Credo de Nicée et enseigné que l'on reçoit l'effacement des péchés en ne croyant qu'en la croix de Jésus. Pendant ce temps, les membres de l'Église sont tombés dans une confusion toujours croissante à cause des doctrines créées par les théologiens. En conséquence, les cœurs des membres de l'Église n'ont pas été libérés de tout péché, et ils sont devenus ceux qui vivent encore en portant le fardeau du péché. Au Moyen Âge, l'Église catholique, soutenue par l'autorité de l'empereur, a exercé son pouvoir religieux à sa guise et a imposé le Credo de Nicée aux gens. Si quelqu'un ne croyait pas au Credo, il était traité comme un hérétique. Aujourd'hui, seule la forme a changé, mais la tendance à considérer comme non orthodoxe ceux qui ne croient pas aux doctrines et au sang de la croix seule comme loi du salut subsiste encore. Ils ont placé une plus grande autorité sur les doctrines théologiques qu'ils ont créées que sur la parole de Dieu écrite. Ils n'ont même pas hésité à persécuter et à tuer ceux qui croyaient en l'évangile de la vérité, que Jésus a été baptisé par Jean et a lavé les péchés du monde. Cependant, aujourd'hui, de tels péchés ne doivent plus être commis devant Dieu. Ils ont prétendu être ceux qui avaient hérité de la foi orthodoxe des apôtres de l'Église primitive depuis 325 après Jésus-Christ, mais le fruit du Credo de Nicée qu'ils ont créé s'est finalement révélé être un fruit mauvais. En fait, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, l'évangile que les apôtres croyaient et prêchaient était l'évangile de l'eau et de l'esprit. 1er Épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. 1er Épître de Jean, chapitre 5, verset 4 à 8. Actes, chapitre 2, versets 38 à 40. Romains, chapitre 6, verset 3. Galates, chapitre 3, verset 27. Mais simplement parce que des théologiens ont créé le Credo de Nicée, peut-on dire que c'est la foi des apôtres? Le Jésus sur la croix dont parle le Credo de Nicée ne parle que d'une partie du ministère de salut de Jésus dont la Bible réelle témoigne. C'est parce que Jésus a été baptisé par Jean que le sacrifice de la croix a été possible en conséquence, mais ils ont supprimé la première partie, et n'ont détaché que la partie de la croix. Vous devez savoir qu'il est grandement erroné pour eux d'essayer de se fonder sur la foi des chrétiens du monde entier avec le Credo de Nicée, que des théologiens ont créé. La foi doit être une question de liberté pour chacun et doit être basée sur la parole de Dieu, elle ne doit pas être liée par les idées des théologiens. Depuis 325 après Jésus-Christ, d'innombrables personnes devenues chrétiennes dans le monde entier ont vécu en ne connaissant que la croix comme évangile du salut, à cause du credo de Nicée créé par des théologiens qui se sont associés à des philosophes. En conséquence, ils ont dû vivre toute leur vie comme esclaves du péché, incapables d'échapper à leur propre péché. Ils n'ont pas encore rencontré la vérité que Jésus a été baptisé par Jean et a lavé les péchés du monde, c'est-à-dire, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même de nombreux pasteurs aujourd'hui n'enseignent que le fait que les péchés ont été effacés sur la croix, et ils ne savent presque rien du ministère du baptême de Jésus. C'est parce qu'eux aussi n'ont compris l'évangile qu'à travers les doctrines qu'ils ont apprises des théologiens qui les ont précédés. Par conséquent, de nombreux pasteurs sont devenus des croyants avec une foi incomplète, ne croyant qu'en Jésus crucifié comme sauveur. Cependant, le véritable évangile est celui-ci: Jésus a été baptisé par Jean, faisant ainsi transférer sur lui en une seule fois les péchés du monde et les lavant, et tout en portant ses péchés, il a été cloué sur la croix et a versé son sang pour recevoir à notre place le jugement pour nos péchés. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. À cause des doctrines que les théologiens ont mal comprises et transmises, les membres de l'Église en sont également venus à croire de manière erronée. En apprenant que l'évangile de la croix et en ne prêchant que cette demi-vérité aux autres, à la fin, ceux qui ne croient qu'en l'évangile de la croix créé par les théologiens en sont venus à posséder une foi qui est dans une profonde erreur. Ce que nous devons réaliser maintenant est clair. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui déclare que Jésus est devenu notre Sauveur en étant baptisé par Jean pour laver les péchés du monde, puis en allant à la croix en portant ses péchés, en versant son sang, et en ressuscitant d'entre les morts. Jésus a été cloué sur la croix pour recevoir à notre place la pénalité pour nos péchés, mais avant cela, parce qu'il devait prendre nos péchés sur son propre corps, il a été baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Cependant, ceux qui ne croient qu'en la doctrine de la croix faite par les théologiens, et ne croient pas à la parole de vérité que Jésus a été baptisé par Jean et a lavé les péchés du monde, ne peuvent finalement rester que des personnes religieuses. De cette manière, les théologiens ont considéré la doctrine de la croix qu'ils ont créée comme ayant plus d'autorité que la parole de la Bible, et ils sont devenus des prédicateurs d'un faux évangile. Jésus a parlé en parabole. Sur le chemin de Jéricho, un prêtre et un lévite ont vu un homme qui avait été dépouillé, mais ils l'ont évité et sont passés outre. Qui ce prêtre et ce lévite désigne-t-il à notre époque aujourd'hui? Ce sont les théologiens et les pasteurs au sein du christianisme et du catholicisme. Ils prétendent exercer leur ministère au nom de Jésus, mais en réalité, c'est comme s'ils se détournaient de ceux qui ont été dépouillés. Celui qui est vraiment notre Sauveur n'est pas seulement le Jésus qui a été suspendu à la croix, mais le Jésus qui a pu aller à la croix parce qu'il a été baptisé par Jean, a pris sur lui et a lavé les péchés du monde. Cependant, parce qu'ils ne connaissent pas ce fait, ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les théologiens de la fin de l'Antiquité ont créé le credo de Nicée, qui ne met l'accent que sur la croix de Jésus, et l'ont enseigné aux gens. Les théologiens qui les ont suivis y ont également cru, et l'ont suivi tel quel. Ceux qui sont spirituellement dépouillés à notre époque sont précisément ceux qui ont reçu de l'enseignement d'une fausse foi. Ceux qui ne croient qu'au credo de Nicée et disent avoir été sauvés de leurs péchés sont ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel la Bible témoigne. De leur bouche, ils disent « Jésus a sauvé les péchés du monde sur la croix », mais en réalité, ils meurent sans que le problème du péché dans leur cœur soit résolu. Ceux qui croient que le credo de Nicée et la foi orthodoxe disent que l'on est sauvé en ne croyant qu'en la croix de Jésus. Cependant, c'est un évangile différent, pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dont parle la Bible. Ils ne croient pas la Bible, mais suivent une foi qui croit en la théologie. Les doctrines théologiques qu'ils ont créées se sont répandues sur toute cette terre pendant 1700 ans. Et même maintenant, il y a d'innombrables personnes qui croient ces doctrines telles quelles. Par conséquent, beaucoup parmi eux s'efforcent d'atteindre la sanctification. Ils essaient d'éliminer leurs péchés en faisant des prières de repentance chaque jour. Cependant, ce que nous devons savoir, c'est le fait que les péchés ne sont pas éliminés simplement parce qu'une personne qui croit en Jésus fait une prière de repentance. Les péchés ne sont éliminés qu'en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit consigné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. L'évangile de l'eau et de l'esprit est l'événement où Jésus a été baptisé par Jean, et a pris sur lui et lavé en une seule fois les péchés du monde. Jésus est celui qui a été baptisé par Jean pour laver les péchés du monde, et qui est allé à la croix en portant ses péchés. Dans Ésaïe, chapitre 1, versets 18 à 20, Dieu a promis qu'il rendrait nos péchés blancs comme la neige, blancs comme la laine. À l'époque du Nouveau Testament, Jésus a accompli cette promesse en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Matthieu, chapitre 3, versets 15 à 17 dit ceci, « Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette parole montre que Jésus a été baptisé par Jean, prenant ainsi sur lui et lavant les péchés du monde. Les paroles « car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste » signifient que le baptême que Jésus a reçu était une œuvre juste consistant à faire transférer sur lui en une seule fois les péchés du monde et à les laver. Par conséquent, ceux qui croient que le baptême de Jésus par Jean était un baptême dans le but de prendre sur lui et de laver nos péchés sont ceux qui ont une foi qui est convenable aux yeux de Dieu le Père. Jésus est allé à la croix pour recevoir à notre place la pénalité pour nos péchés, a versé son sang et est mort, a été ressuscité, et il est devenu notre Sauveur. En croyant la parole de salut selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a fait transférer sur lui les péchés du monde et les a lavés, nous sommes devenus ceux qui ont reçu l'effacement des péchés. Nous ne sommes pas ceux qui ont reçu l'effacement des péchés en croyant à la doctrine du salut faite par les théologiens. Celui en qui nous devons croire est Jésus-Christ, et nous croyons le fait que Jésus-Christ a été baptisé par Jean, a pris sur lui et a lavé les péchés du monde. Ceux qui croient ce fait sont précisément ceux qui ont été sauvés de tous les péchés. Croire la parole de Dieu est notre part, et être baptisé par Jean-Baptiste pour laver les péchés du monde était la part de Jésus qu'il devait accomplir en tant que sauveur. Le cœur de notre salut est ceci, c'est l'évangile que Jésus a été baptisé par Jean et a lavé les péchés du monde, a été pendu à la croix, a versé son sang et est mort, a été ressuscité, et est maintenant devenu notre sauveur. Par la foi en cet évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus ceux qui ont reçu l'effacement des péchés. Jésus est le Sauveur qui a été baptisé par Jean, prenant ainsi sur lui et lavant les péchés du monde. Cependant, pour ceux qui rejettent et ne croient pas la parole de vérité selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a fait transférer sur lui les péchés du monde et les a lavés, leurs péchés ne seront jamais lavés pour l'éternité. Le symbole de Nicée rapporte que seule l'œuvre de la croix est l'œuvre qui nous a sauvés, mais si l'on s'en tient uniquement à cela, on finira par devenir une personne qui croit au Seigneur en vain. Si l'on veut vraiment être sauvé de ses péchés, on doit croire la parole de vérité selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean et a lavé les péchés du monde. Autrement, si l'on essaie de croire uniquement en la croix tout en ayant effacé cette vérité, cette personne est quelqu'un qui a perdu le chemin pour voir ses péchés résolus. Parce que Jésus a été baptisé par Jean, a fait transférer sur lui les péchés du monde et les a lavés en une seule fois, nous pouvons devenir ceux qui reçoivent le lavement des péchés de tous nos péchés par la foi. Cependant, si vous effacez ce fait de votre cœur et que vous vous accrochez et ne croyez qu'en la croix, l'âme de cette personne sera capturée par le péché et marchera dans la vallée de la mort. Si vous marchez actuellement dans cette vallée de la mort, vous devez, même un jour plus tôt, croire en l'évangile du salut, dans lequel Jésus a été baptisé par Jean, a pris sur lui les péchés du monde et les a lavés. Ce moment même est votre opportunité d'être sauvé du péché. Avant que ce temps ne passe, j'espère que vous deviendrez ceux qui ont reçu l'effacement des péchés en croyant dans vos cœurs à l'évangile selon lequel Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Si vous vous accrochez à la doctrine de ne croire qu'en la croix, qui a été faite par les théologiens, c'est un chemin qui mène finalement à l'endroit où un pécheur doit aller. Vous devez faire demi-tour, même maintenant. En étant baptisé par Jean et en lavant les péchés du monde, Jésus est devenu le Sauveur qui a déjà lavé vos péchés. Maintenant, vous devez choisir. Croirez-vous les doctrines et les paroles faites par les théologiens? Ou croirez-vous la parole de Dieu, l'évangile du salut, selon laquelle Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean? Seuls ceux qui croient la parole de vérité, que Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, peuvent devenir ceux qui ont été purifiés de tous les péchés. Jésus a dit, « La vérité est la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Il est le Sauveur qui a lavé les péchés du monde en une seule fois en étant baptisé par Jean. J'espère que vous deviendrez ceux qui croient que vos péchés ont été résolus en une seule fois par Jésus-Christ, son ministère du baptême et son ministère de la croix. L'opportunité ne se répète pas toujours. Si votre vie est prise cette nuit, où ira votre âme? Ne reportez plus à plus tard. En ce moment même, j'espère que vous deviendrez ceux qui obtiennent l'effacement des péchés et la vie éternelle dans vos cœurs en croyant en l'évangile de vérité, selon lequel Jésus a lavé les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean. Il n'y a qu'une seule façon pour nous d'être sauvés de nos péchés. C'est de croire au fait que Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés en recevant le baptême de Jean. Le vrai salut est seulement la foi qui croit qu'il est le Sauveur qui a lavé les péchés du monde en une seule fois en recevant le baptême de Jean, a été crucifié, a versé son sang, est mort, puis a ressuscité. Mais pourquoi essayez-vous encore de rester pécheur en abandonnant la parole de vérité, que Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, et en ne croyant qu'au demi-évangile qui ne s'attache qu'à la croix? Une telle foi est une foi trompée par les théologiens, et c'est une foi vaine. À cette époque, l'empereur romain, pour unir l'Empire romain, a mobilisé des théologiens pour créer le credo de Nicée et a formé une religion syncrétique. Ils ont fait en sorte qu'il soit prêché, jusqu'à ce jour, que seul le Jésus sur la croix est le sauveur de ce monde. À cause de cela, au cours des 1700 dernières années, d'innombrables personnes ont vécu leur vie en pensant que la croix seule est l'intégralité du salut. Cependant, l'évangile dont parle la Bible est clair. C'est le fait que Jésus est le Sauveur qui a pris sur lui et lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, puis est allé à la croix. Si eux, même maintenant, désirent croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur et recevoir la rémission des péchés, le Seigneur leur donnera la foi et leur accordera la rémission éternelle des péchés. Maintenant, nous en sommes venus à lire et à entendre la parole de l'évangile selon laquelle le Seigneur a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean. C'est pourquoi l'opportunité de recevoir la rémission des péchés a maintenant été donnée. Cet évangile de l'eau et de l'esprit était un évangile qui avait été caché pendant les 1700 dernières années. Par conséquent, nous devons aussi prêcher cet évangile aux autres. Si vous croyez en l'évangile selon lequel le Seigneur a pris sur lui et lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, vous pouvez recevoir la rémission des péchés. Prêcher cet évangile est une responsabilité qui nous est donnée, à nous qui avons d'abord cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous qui avez entendu et cru en l'évangile du salut, que Jésus a fait transférer sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean, êtes, en fait, des personnes très bénies. C'est parce qu'il y en a tant dans ce monde qui sont décédés sans jamais avoir entendu cet évangile ne serait-ce qu'une seule fois. Même maintenant, parmi les croyants catholiques et protestants du monde entier, beaucoup meurent sans croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce qu'ils n'ont pas pu l'entendre. Ils ne s'attachent qu'à la croix de Jésus, croyant qu'en elle se trouve l'intégralité du salut. C'est pourquoi nous voulons leur prêcher aussi cet évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous croyez en l'évangile du salut selon lequel Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, vous devenez ceux qui sont sauvés des péchés. Nous vous invitons à l'assemblée de l'évangile de vérité selon lequel Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Vous êtes des gens qui, jusqu'à présent, n'ont jamais entendu correctement l'évangile qui a lavé vos péchés en une seule fois. Le Seigneur est le maître de l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile par lequel lui, étant baptisé par Jean, a fait transférer sur lui les péchés du monde et les a lavés en une seule fois. Vous et moi devons vivre en jouissant de la bénédiction de devenir ceux qui ont reçu la rémission des péchés, en croyant en cet évangile de l'eau et de l'esprit avec nos cœurs. Alléluia.